RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour. Après un an et demi d'opération dans la région du Liptako, à la frontière avec le Niger, l'armée française vient de commencer à s'implanter dans la région voisine du Gourma, dans la partie centrale du Mali. Pour l'armée française, il s'agit d'étendre son effort à une zone contiguë, en espérant que les opérations militaires permettront d'affaiblir suffisamment les terroristes, ramenant un niveau de sécurité, autorisant le lancement de projets de développement et la restauration de l'État malien. Notre journaliste en charge des questions de défense était ces dernières semaines à Ménaka puis à Gossi à l'invitation de l'armée française. Barkhane, d'une région à l'autre, la stratégie des dominos. Grand reportage signé Olivier Faux.
L'hélicoptère Puma de la force Barkhane se pose à l'intérieur de la base des forces maliennes à Ondérabukane. Une base avancée en construction sur un petit plateau écrasé par le soleil. Les travaux ont débuté le 12 février dernier. Le capitaine Marc, de Barkhane, était là, tout comme le capitaine Yacouba, du génie malien.
C'était de la brousse, c'était juste une plaine qui avait été identifiée avant par une reconnaissance qui avait été menée conjointement avec les FAMA. On avait trouvé la zone donc un petit peu intéressante, bien placée par rapport à la ville, et donc en fait le capitaine est parti de rien.
C'est un projet à trois têtes, l'aménagement, les FAMA et la force Barkhane. La force Barkhane assure la sécurité avec une compagnie des FAMA. Nous, le génie, nous exécutons et l'aménagement approvisionne. Et notre mission, c'est pratiquement pouvoir sécuriser les FAMA dans leur installation. Donc, il faut les mettre dans les conditions optimales pour pouvoir se défendre. Là-bas, c'est l'entrée principale et ça, c'est l'issue des secours.
Le gouverneur de la région, Daouda Maïga, est venu avec toute son escorte. Pour lui, l'arrivée des FAMA marque un nouveau départ.
L'installation des FAMA ici était prévue depuis 2 ans. On en parlait. Je ne pouvais pas envoyer l'administration sans qu'il y ait des forces de sécurité. Ça signifie le retour à la normalité. Parce que la zone était laissée à elle-même, tirée entre les bandes armées, les groupes armés. Et pour nous, administration, vous voyez, c'est l'occasion pour nous de ramener le préfet et les choses reprennent. Les choses reprennent. Et nous pensons qu'il faut laisser un peu de temps au temps. Et nous estimons que d'ici fin 2019, début 2020, on aura fait des avancées significatives en matière de retour de la paix et de consolidation du développement.
En attendant, signe tangible du retour de l'administration, le préfet Moussa Diallo va pouvoir s'installer dans la base avant de retourner en ville.
Ce matin, quand nous sommes arrivés, on a ressenti un espoir naissant. De 2012 à aujourd'hui, toutes les infrastructures ont été saccagées. Il n'y avait pratiquement pas de santé, d'éducation, aucune structure n'était fonctionnelle. En 2018, on a nommé un directeur d'académie et l'école a repris. La santé aussi. Maintenant, il reste les autres structures de l'administration parce que nos éléments, quand ils nous voient sur le terrain, c'est que vraiment maintenant l'État est là.
On comprend que d'une certaine manière, le retour de l'administration va rassurer les populations, mais est-ce que vous êtes rassuré d'être ici?
Vraiment, avec les FAMA qui sont là, et Barkhane qui fait des va-et-vient et l'aménagement à 80 km, je crois que je suis rassuré.
Allez-y, ratonne alors.
Pour l'heure, un simple conteneur métallique a été installé pour servir de bureau. Il fait 50 degrés à l'intérieur. Le préfet fait contre mauvaise fortune bon cœur.
Mais c'est bien.
Ça là, il faut être une marchandise pour tenir ici.
Nous quittons Ondérabukane pour rejoindre Ménaka, la capitale régionale, où nous retrouvons le capitaine Marc. C'est jour de marché. Depuis la terrasse d'une maison du quartier nord de la ville, il a une vue parfaite sur l'artère principale.
Ici, on est sur les quartiers nord de la ville de Ménaka. La ville de Ménaka, c'est environ 30 000 habitants qui s'organisent entre 6 à 9 quartiers. On a ici sur place environ 6 ethnies principales, 6 groupes sociaux qui cohabitent ici. Parce qu'on a ici des Daoussak qui sont éleveurs, des Peuls qui sont éleveurs mais qui sont que de passage. Et on a aussi des Arabes au sud qui eux ont plutôt la main sur le commerce. Mais ça reste une ville qui est dans laquelle les gens cohabitent. Avec l'équipe de Ménaka, il y a beaucoup de projets chimiques, notamment des puits qui sont placés à des endroits judicieux, incinérateurs, des forages au niveau de la zone maraîchère. Donc il y a beaucoup de projets chimiques qui sont suivis par l'équipe de Ménaka. Donc régulièrement, j'escorte des patrouilles chimiques sur la ville.
En avant.
Les chimiques, les actions civilo-militaires ou comment faire accepter la force Barkhane, en participant à des projets au profit des populations locales. Direction la commune de Tabankot, où l'adjudant-chef Philippe a rendez-vous avec Motia Ag Mohamed, le directeur d'une école primaire.
On a refait le puits là avec les...
Ça, c'est le forage.
Avec les FAMA.
Qui a été réhabilité par Simic FAMA. Ah. Ça, c'était l'inauguration, il est la fois, c'était en octobre 2018. C'est pour l'école, pour les enfants. Parce qu'avant, depuis 2015, le puits était fonctionnel, mais c'est gâté. Et les enfants partaient chercher de l'eau. Est-ce que vous voyez les puits de l'autre côté? C'est là-bas que les enfants amenaient de l'eau. Donc, on s'est débrouillé. L'année dernière, FAMA est arrivée avec l'aide de Barkhane. Donc, ils ont pu réhabiliter. Et maintenant, ça va. Les enfants boivent de l'eau. Pas de problème.
Il y a de l'eau, là?
Oui, oh, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est à moins de 10 mètres. Il y a de l'eau, vraiment. Les enfants viennent ici à l'école. Bah, d'autres quittent la ville, d'autres quittent 3 km, d'autres sont jusqu'à 5 km. Ça, c'est, y a plein de villages qui entourent les villages de Tabankot 1 qui viennent ici à l'école.
Donc ça, c'est un projet qui a été réalisé en combien de temps à peu près?
Ça a mis 6 mois à peu près, la réalisation. Et en fait, ça rentre vraiment dans les projets Barkhane avec les FAMA en fait. On les aide à monter des projets pour vraiment... pour que ce soit eux qui prennent le lead, en fait.
Donc ça permet effectivement de venir en aide à la population, mais ça permet surtout de faire accepter la force, c'est ça l'objet?
Bien sûr. C'est un tout. Hein. C'est un tout. Si on aide la population, ils apprécient notre présence et ils nous aident derrière.
Il y a des gens qui parfois vous signalent des choses suspectes?
Ils sont encore un peu réticents à le faire, mais bon, ça vient de plus en plus, en fait. Après, ça reste encore, pour l'instant, un peu timide, quoi.
Dans la cour, Kalachnikov en bandoulière, le sergent Mamadou Koulibaly des forces armées maliennes perçoit parfaitement l'intérêt de la mission dans un pays où la population s'est longtemps méfiée des forces armées.
L'intérêt d'une patrouille de ce genre, c'est d'abord de redonner, c'est-à-dire confiance à la population de Ménaka, de créer un climat de confiance entre FAMA et ses partenaires et la population civile de Ménaka. Pour leur montrer que nous ne sommes pas seulement là pour faire la guerre, mais surtout que nous sommes là pour contribuer à leur développement socio-économique. C'est en fait ça. En tout cas, ici, maintenant, dans la région de Ménaka, la paix, ça dit, s'installe à grands pas. Ici, à Ménaka, même, ça va. Au niveau des groupes signataires qui sont aussi dans la région de Ménaka, nous avons eu même, pendant la nuit, nous faisons des patrouilles avec eux. Le grand problème maintenant du Nord, c'est le tourisme.
À Ménaka, l'amélioration de la situation sécuritaire permet d'envisager le lancement de projets de développement passant par la construction d'infrastructures. L'Agence française de développement a lancé fin 2018 une phase d'amorçage à Ménaka avec le déblocage d'une enveloppe d'1,5 million d'euros pour des projets d'infrastructures commerciales, de réhabilitation des marchés à bestiaux, d'installation pluviale et d'accès à l'eau. Dans le Liptako, plus largement, la force Barkhane, déployée depuis 18 mois, s'emploie à créer les conditions de la stabilisation. En mars, une 8e opération Koufra a été lancée afin de s'attaquer aux sanctuaires les plus lointains du groupe terroriste EI pour le Grand Sahara. Quelques jours plus tard, l'organe de communication de l'organisation État islamique publié pour la première fois une vidéo présentée comme ayant été tournée durant des combats contre l'armée française à la frontière nigérienne. Cap à l'ouest, nous passons le fleuve Niger pour nous rendre à Gossi, à 400 km de Ménaka. Une base en construction, désormais le point d'ancrage de Barkhane dans la région voisine du Gourma. Des conditions de vie difficiles pour les soldats. Lors de notre visite, le forage n'était pas encore terminé, pas d'eau courante, pas de climatisation et 2 bouteilles d'eau par jour pour se laver. Le commandant du site, le capitaine François.
Donc là, on se trouve dans la BOT de Gossi. La BOT de Gossi, là, donc base opérationnelle avancée tactique. C'est une base qui est en cours de construction, mais là, ça permettra vraiment d'avoir une base permanente, une sorte de base d'assaut pour partir dans le Gourma. Donc ici, avant, c'était une emprise de la MINUSMA et des FAMA. Barkhane s'installe ici en s'appuyant sur ce qui restait du camp de la MINUSMA. Donc la BOT de Gossi, c'est une emprise qui fait 200 sur 300 mètres environ. Un grand rectangle qui est prévu d'être agrandi également à environ 5 km à vol d'oiseau de la ville de Gossi. La ville de Gossi elle-même est un carrefour économique important sur la route entre Gao et Bamako, le point économique de la zone au niveau local.
En ville, Barkhane affiche sa présence dans Gossi depuis le début de l'année. Dans la partie commerçante, le lieutenant Gauthier et ses hommes patrouillent en gilet pare-balles et casque lourd.
Depuis quelques mois, notamment depuis que Barkhane est revenu à Gossi, la situation s'est largement améliorée, notamment grâce aux forces partenaires qui en fait escortent les convois depuis l'ouest du Mali jusqu'à l'est. Donc on a un trafic qui reprend quand même pas mal sur la RN16. Comme vous pouvez le voir, on voit des bus encore sur le bord de la route, il y en a un peu en permanence. Les gens reprennent un peu confiance pour circuler. Donc c'est une bonne chose.
À Gossi, Barkhane estime que la population est favorable à la force française, mais les habitants parlent parfois avec une certaine réticence. Vêtue d'un boubou coloré, une femme s'avance vers les militaires français.
Tout va bien. La sécurité est là. Lorsque le Barkhane est là, personne ne nous empêche de faire ce qu'on voulait. On fait ce qu'on veut. Avant, nous sommes partis jusqu'au fond de Bamako. Depuis que Barkhane est venu, nous sommes revenus.
Bon, merci.
Ok.
Bonne journée à toi.
Ok, bonne journée.
Plus loin, sur le marché, dans son échoppe vide, Amil Alassane Maïga, cordonnier de métier, se désespère. À cause de l'insécurité, ses clients ont déserté.
Rien ne marche. Même ceux qui ont les moyens, ils ont peur de se déplacer avec l'insécurité. Et si tu as quelques sommes avec toi aussi, en cours de route, on te braque et puis on le reprend. Raison pour laquelle, même si tu es là, tu ne peux pas se déplacer avec. Je suis totalement fatigué. Là où je suis même, je voudrais même quitter la localité parce que ça me fait des mois que je suis là à mes croises.
Ici aussi, Barkhane appuie son déploiement avec des projets simiques. Mais les actions civilo-militaires n'en sont qu'à leur début. Garantir la liberté de circulation, l'accès au marché, l'accès à l'eau. L'adjudant Pierre nous attend devant le puits de Barkhane. C'est comme ça que ce point d'eau est désormais surnommé à Gossi.
On va aller voir le puits qui a été rénové par Barkhane. C'est un puits qui était cassé, qui était bouché. Donc il y a eu un travail en profondeur d'effectuer avec un curage, avec une désinfection, de manière à rendre l'eau potable pour les habitants. Donc maintenant, les habitants de la ville viennent de très loin, même du quartier Goudron de l'autre côté, pour s'approvisionner en eau. Alors ce site a été choisi dans l'urgence quand la force Barkhane est arrivée sur Gossi. C'est quelque chose de bénéfique.
Ça permet de gagner en visibilité aussi avec l'installation de la BOAT là-haut là.
Ça permet surtout de montrer à la population que la force Barkhane est là pour eux. C'est un projet dans le cadre également du développement, de l'appui à la population.
Ça reste un projet simique.
C'est un projet simique. C'est un projet simique pour le développement de la population et pour permettre à cette ville de repartir sur le bon chemin.
Pendant que l'adjudant Pierre présentait ses projets, à 5 km de là, la base opérationnelle avancée de Gossi s'est remplie de véhicules en provenance de Gao. 150 blindés et camions, 700 militaires se sont rassemblés pour lancer l'opération Bourgou dans le Gourma. Au petit matin, le convoi s'engage sur la route nationale 16. Par endroits, le goudron a été avalé par le sable. Il ne reste plus que la moitié de la route. La RN16 est un axe vital entre Bamako et Gao. Nous y croisons des pick-up, des camions de marchandises surchargés, des semi-remorques collées à la route qui avancent au pas, tour de roue après tour de roue. Brutalement, le vent se lève et le ciel se charge de poussière jaune. La visibilité est réduite à quelques dizaines de mètres. Le convoi doit s'arrêter après avoir parcouru seulement 40 km.
Donc pour nous, je pense qu'on est parti pour un bon bout de temps sur vol. Donc il va falloir faire débarquer les personnels de manière à faire une bulle de sécu tout autour. Pour 22, Matilly pour 21 face 3h et pour 23 face 2h.
Surveillance à 360 degrés, chacun ouvre l'œil. Pas question de se laisser surprendre comme à Akabar quelques semaines plus tôt, lorsqu'un véhicule suicide chargé de 250 kg d'explosifs a pu se rapprocher à seulement 30 mètres du dispositif de Barkhane. Deux militaires ont été gravement touchés, 6 autres plus légèrement. Des attaques suicides de plus en plus fréquentes, une toutes les 3 ou 4 semaines dans la zone Barkhane, selon le renseignement français. Le convoi ne repartira pas, c'est la mise en place de la boîte, selon le jargon des militaires. Forteresse d'acier, au milieu du désert, 40 véhicules blindés disposés en carré pour protéger les soldats à l'intérieur. Après une courte nuit, le sergent Thomas se prépare à un nouveau départ.
Donc là, on a passé la nuit sur zone. Là, on va reformer la rame des véhicules pour se diriger vers Ombori.
En se rapprochant d'Ombori, le convoi du groupe tactique Désert 1 se rapproche aussi de la menace numéro 1 au Mali, les mines artisanales. Elles tuent régulièrement dans la région de Boni et de Douenza, un peu plus loin.
5-25.
Sur la RN16, les points de passage obligés pour le convoi sont soigneusement inspectés. Les militaires appellent cela une VNP, une vérification de non-pollution par engin explosif.
Donc Coyote effectue une VNP, donc un kilomètre un peu plus loin.
Le convoi du groupe tactique Désert 1 est arrivé à Ombori le 27 mars, rejoint par une dizaine d'hélicoptères de Barkhane pour le lancement de l'opération Bourgou. Au bout de la piste, 3 jours après notre départ, le capitaine Marc Lécuras a trouvé la mort lorsque son blindé a sauté sur une mine artisanale. Le colonel Patrick Stéger annonce la nouvelle le 4 avril dernier à Paris.
Bonjour à tous, donc on commence donc par Barkhane, la mort en opération mardi du médecin Marc Lécuras. Donc c'est passé à 13h hors de Paris, son véhicule, qui est un véhicule avant blindé, engagé dans un groupement en opération dans la région du Gourma au Mali, qui a été frappé par la déflagration d'un engin explosif.
La ministre des Armées, Florence Parly, lors de l'hommage national aux Invalides.
Médecin principal Marc Lécuras, dans les nuages de poussière ocre de la région du Gourma, vous étiez, il y a quelques jours, aux côtés de vos frères d'armes, heureux et fiers d'accomplir, aux côtés de votre équipe médicale, l'indispensable mission de veiller sur chacun d'entre eux. C'était votre première opération.
6 ans après l'opération Serval, la France a perdu 25 militaires au Mali. Pour le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, Barkhane doit être présente sur le terrain, dans la durée, pour obtenir des résultats.
Aujourd'hui, l'idée est de faire ce travail d'occupation du terrain et de stabilisation zone après zone, en couplant le travail que nous faisons spécifiquement et purement militaire de contraintes sur les terroristes, d'affaiblissement des terroristes, de limitation de leur capacité de manœuvre, de contraintes sur leur flux logistique, d'incapacité à se déployer, à manœuvrer, en le couplant avec la réinstallation de l'État malien, le renforcement des armées maliennes et des armées partenaires, et par ailleurs avec des actions de développement. Il se trouve qu'on a commencé par le Liptako, la zone adjacente suivante c'est le Gourma, et donc on va dans le Gourma. Et ensuite, au gré de l'évolution et des progrès que nous ferons en matière de développement et de réinstallation de l'État malien, une bascule de l'effort dans la zone du Gourma, et ensuite dans la zone du Liptako, simplement une présence plus légère.
L'opération Bourgou s'est terminée le 10 avril. Selon l'état-major français, cette opération menée conjointement avec l'armée malienne aura permis la mise hors de combat d'une trentaine de membres de groupes armés terroristes opérant dans les forêts de Foulsaré et de Serma, au sud d'Ombori. Barkhane dans le Liptako Gourma, la stratégie des dominos, un grand reportage d'Olivier Four, réalisation Eva Piedel.